Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, monsieur, bonjour. La société civile du Nord Kivu plaide pour une présence accrue de la MONUSCO et de la CRGL dans les zones à forte tension pour un meilleur suivi du cessez-le-feu dans les deux Kivu. Pour elle, le respect de ce cessez-le-feu soulagerait quelque peu la souffrance des déplacés. On s'oriente peut-être vers la concrétisation de la construction des frontières à Réunique entre 5 pays africains dont la RDC. Le sujet a été au centre des discussions hier à Dubaï entre les ministres de ces pays, la SLECAF, ainsi que DP World. 18 février 2006, 18 février 2026, 20 ans depuis la mise en application de la constitution de la RDC adoptée par référendum. Des intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais hier mercredi ont évalué la mise en application de cette constitution 20 ans après. Vous le suivrez dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité, c'est d'abord la société civile du Nord Kivu qui frappe à la porte de la MONUSCO. Nous sommes là à Beni. Elle plaide pour une présence accrue de la mission onusienne et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, spécialement dans les zones à forte tension, pour un meilleur suivi du cessez-le-feu entre les FARDC et l'FC 123, un cessez-le-feu décidé dans le cadre du processus de paix de Doha. Selon cette structure citoyenne, la multiplication des lignes de front dans les provinces du Nord et du Sud Kivu est l'un des défis qui exige une forte présence sur terrain. Son président John Banyene nous explique de quoi il s'agit.
Pour nous, la population meurtrie du Nord Kivu, ça serait une bonne chose si ce cessez-le-feu pouvait être respecté. Ça pouvait permettre aux déplacés de commencer à rentrer chez eux avec cette accalmie qui pouvait s'observer sur le terrain. Mais nous sommes encore pessimistes parce que, à commencer par les Sud Kivu, là où ils sont, jusqu'ici au Grand Nord, les lignes de front sont vraiment multiples et on ne sait pas comment on va contrôler ce cessez-le-feu, surtout qu'il y a les Ouazalendou qui sont un peu partout, même dans les zones contrôlées par les M23. Et là, on s'est dit comment ce cessez-le-feu sera observé. Aujourd'hui, pour que ce cessez-le-feu puisse être respecté, avec le mandat actuel de la MONUSCO, il serait mieux à ce qu'on puisse renforcer les effectifs de la MONUSCO avec la collaboration de la CIRGL pour contrôler la faisabilité de ce cessez-le-feu.
Le président de la société civile en Kivu, John Banyene, qui précise que le respect de ce cessez-le-feu permettrait de soulager quelque peu la souffrance des milliers de déplacés. Il était donc au micro de Martial Papi et Omukeba. En fait, toujours de combattre l'insécurité dans cette partie du Nord Kivu, un atelier de 5 jours sur la police de proximité et la gestion des données criminelles se tient depuis hier mercredi à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Cette formation est destinée aux éléments de la police de ce territoire. Sa mission, outiller les forces de l'ordre par rapport aux nouvelles techniques pour se rapprocher de la population et répondre efficacement aux questions judiciaires. Notez aussi que cet atelier est organisé par l'organisation Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, Sophie Padi, Marc Maro Fimbo pour d'autres précisions.
Au total, une quarantaine d'officiers de police judiciaire, des commandants d'unités et des gestionnaires de bases de données issus des sous-commissariats des 4 communes de la ville de Beni participent à cette formation. Les thèmes abordés incluent les principes fondamentaux de la police de proximité, la gestion participative de la sécurité, le respect des droits humains, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'analyse des données criminelles. Le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, qui a ouvert la formation, a rappelé son importance.
Aux policiers bénéficiaires de cet atelier, je lance un appel clair. Appropriez-vous ces enseignements. Faites-en des outils de transformation de vos unités respectives. La discipline, l'intégrité, le professionnalisme doivent demeurer vos repères constants.
Selon Gisèle Kassereka, chef de projet à la Sofepadi, cet atelier répond à des besoins concrets.
Nous sommes des acteurs qui observent la situation au niveau de Beni. Nous regardons les tensions communautaires qui règnent des fois entre les policiers et les jeunes, par exemple, de Beni. Nous regardons les questions de justice populaire qui arrivent des fois. Et il y a des alertes au niveau de la communauté qui viennent et des fois qui n'ont pas de réponse. Et nous avons pensé que c'est important de travailler sur cette problématique.
Cet atelier de formation de 5 jours prendra fin le 24 février 2026. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Des
Des postes frontaliers à réunir conçus pour 5 pays africains, il s'agit de la RDC, la Zambie, le Mozambique, le Zimbabwe et le Botswana. Objectif visé, construire des postes frontaliers en vue de les moderniser. En tout cas, cela a été au centre d'une réunion technique hier mercredi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les ministres du commerce extérieur de ces 5 pays, DP Rhodes et le secrétaire général de la SLECAF, ont échangé sur un modèle de financement destiné à fluidifier le transit et réduire les délais aux frontières. Pour le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, cette initiative lancée en marge du 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba permettra de diminuer les coûts de transport et de rendre les produits plus compétitifs. On écoute dans cet extrait proposé par Grace Samzati.
Après la réunion d'Addis Abeba, nous nous retrouvons encore une fois ici à Dubaï avec nos homologues de Mozambique, de la Zambie, du Zimbabwe, du Botswana, autour du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, ainsi que notre partenaire DP World, pour continuer les réflexions sur ce que nous avions commencé à Addis Abeba, à savoir la construction de nos postes frontaliers à arrêt unique entre nos pays pour fluidifier les échanges, pour permettre que des longues files de véhicules qui attendaient à nos frontières, ces longues files, puissent finalement se déplace à la célérité. Et donc, nous avons avec DP World qui a accepté l'offre de nos différents pays. Avec DP World, donc, on a échangé sur le modèle de financement. Comment nous allons financer ces infrastructures? Comment on va les moderniser? Comment on va les digitaliser pour permettre à ce que les délais de passage de nos véhicules, qui étaient de 45 à 55 jours entre la RDC et les ports de Dar es Salaam, ces délais puissent être réduits dans un premier temps à 10 jours, à 5 jours et peut-être plus tard à très peu de jours, permettre ainsi que le coût de nos marchandises puisse être compétitif sur les marchés internationaux.
De son côté, le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Emene, a souligné que cette initiative s'inscrit dans l'accélération de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine afin de promouvoir davantage le commerce intra-africain. Ici à Kinshasa, le contrôle des documents de transport et de véhicules s'est renforcé sur plusieurs axes routiers plus de 2 semaines après son lancement. Les autorités parlent d'une opération de lutte contre les embouteillages, les faux documents et aussi, c'est pour améliorer la sécurité routière. Mais sur le terrain, chauffeurs et usagers n'ont pas toujours le même regard. Entre histoire d'ordre et dénonciation d'abus, le débat reste ouvert. Nancy Atambo nous en parle.
Sur le grand avenue de la capitale, les équipes de contrôle arrêtent taxis, bus et véhicules privés pour vérifier permis, assurance et carte grise. Du côté de l'association de chauffeurs, on reconnaît que l'ordre doit être rétabli dans les secteurs.
De notre côté, bien entendu, nous ne pouvons pas empêcher l'État congolais de faire le contrôle. De la manière, la promptitude ou les achats qui étaient dès le départ ne sont plus les mêmes, vu que les avis que nous reprochons dans le temps auprès de la PCR, les mêmes erreurs commencent à se répéter aujourd'hui face à quelques agents qui étaient déplacés sur la chaussée.
Certains passagers, eux, dénoncent les embouteillages et les retards causés par ces opérations.
La résolution du problème des embouteillages ne sera jamais résolue jusqu'à ce que l'État mette en place une politique de multiplier des routes. Et puis ça a perturbé les programmes des gens, les calculs. Comme vous le savez, on vit dans un pays où, avec des calculs journaliers.
Les autorités promettent de maintenir la pression. Les chauffeurs et les usagers, eux, disent attendre non seulement des contrôles justes et transparents, mais aussi la réhabilitation rapide de plusieurs tronçons routiers en état de délabrement avancé.
En Ituri, plusieurs quartiers de la ville de Bounia ne sont pas alimentés en électricité. Et là où le courant est disponible, les habitants dénoncent des coupures intempestives et la surfacturation par l'entreprise GreenTech. Ces plaintes ont été relayées mardi par la coordination de la société civile de l'Ituri lors d'une rencontre avec le caucus des parlementaires de la province. Son président parle d'un véritable désintéressement des autorités face à ce qu'il qualifie d'arnaque de la population. Isaac Clément.
Sur les 26 quartiers que compte la ville de Bounia, près des 3/4 ne sont pas desservis en électricité. Résultat, de nombreux habitants passent leur soirée dans les noirs ou se tournent vers l'énergie solaire et les groupes électrogènes pour les plus nantis. Dans d'autres quartiers, le courant est instable et les tarifs seraient 3 fois plus élevés que ceux appliqués autrefois par la Soukimo, l'ancienne société chargée de la distribution de l'énergie en Ituri. L'hôtel civil, par la voix de son président Dieudonné Lossa, dénonce le silence des autorités provinciales et appelle les parlementaires à intervenir. intervenir.
Tout le monde ne reçoit pas le courant. Il y a pour la plupart des cas le délestage. Les gens se posent la question pourquoi cette surfacturation. 3 fois plus, pour quelle raison? Comment les autorités ferment les yeux et laissent GreenTech arnaquer la population?
De son côté, la société GreenTech rejette ces accusations. Elle précise avoir mis en place un système de facturation prépayée basé sur la consommation réelle de chaque abonné. Alliance Kingoudi, chargée des communications de GreenTech.
Nous sommes en train de supprimer les factures forfaitaires pour justement laisser la gestion prépayée. Et je ne vois pas en quoi GreenTech parlera de la surfacturation puisque le prix du kilowattheure est connu, c'est à 0,26. Nous avons hérité un réseau vétuste. Nous sommes en plein chantier, c'est un grand travail ce que nous faisons. Nous avons promis d'être l'énergie pour tous et nous allons le réaliser.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et cet avocat à l'honneur à Kinshasa, la République démocratique du Congo a rendu hommage à ces touches noires qui se sont distinguées par leur engagement et leur loyauté au cours de 25 années de service dans de nombreux procès d'intérêt national. La chancellerie des ordres nationaux leur a décerné la médaille d'or du mérite civique, une distinction qui consacre leur rôle essentiel dans la défense de la justice et des valeurs républicaines. Parmi ces chevaliers de la loi figure Maître Rufin Luko Moussabao, reconnaissant pour cet honneur, il salue l'initiative de la République qui, à travers cette distinction, encourage les hommes et les femmes de droit à poursuivre leur mission avec courage et intégrité. Nous écoutons au micro de Jean-Marc Matoki.
Nous sommes très heureux parce que ça fait plus de 25 ans que nous exerçons cette profession de la défense des misérables, de la défense des victimes de l'arbitraire, de la défense des victimes de l'illégalité, de l'injustice. Nous avons prêté serment pour le faire conformément à la loi, dans le respect des institutions et de la Constitution de la République et dans le respect des droits de l'homme. Nous avons fait donc cette profession, nous l'avons exercée pendant plus de 25 ans et nous avons été ici avocat de la République, là-bas avocat des particuliers, là-bas avocat des artistes et musiciens comme le plus grand de notre pays, Koffi Olomide, Nyoka Longo et Ava et Taboulé Hirochiro. Nous avons donc exercé dans plusieurs procès de violences sexuelles où nous avons défendu les victimes, nous avons exercé dans les procès d'Icapen, nous avons exercé dans des grands procès du pays pour ne citer que ce que je viens de citer là. Et donc la République nous poursuivait pas à pas pour arriver jusqu'à le couronnement d'aujourd'hui. Donc c'est une sanction.
Sachez que cette décoration intervient 4 ans après une autre cérémonie du genre organisée en 2022 en faveur de 22 autres avocats congolais qui ont chacun reçu une médaille d'argent à l'époque. Parlons santé avec cet appel à la solidarité en faveur des enfants atteints du cancer au Nord Kivu. Il a été lancé officiellement en mardi par l'évêque catholique Willy Ngumbi. Cette initiative, portée par Wema Healthcare Initiative, vise à mobiliser des fonds pour assurer la prise en charge médicale de 6 enfants. Il faut dire aussi que cet appel s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du cancer pédiatrique qui est célébrée le 15 février de chaque année. Bernardin Enyangui nous en dit plus.
Ce lancement marque également la clôture d'une première campagne de collecte de fonds initiée fin janvier par Wema Healthcare Initiative. Intitulée « Ensemble pour nos enfants malades de cancer », la campagne reste ouverte afin de permettre à toute personne de bonne volonté de contribuer. Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, insiste sur la nécessité d'une mobilisation collective.
Le cancer peut se soigner, mais ça demande des moyens. Comme vous avez entendu, ça coûte cher, au moins 4 500 $. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est lancer un appel. C'est l'union qui fait la force. Regardez ce que vous pouvez donner.
Depuis plusieurs années, l'organisation Wema a ouvert une unité d'oncologie pédiatrique au sein de l'hôpital La Charité Maternelle de Goma. Mais l'établissement fait face à d'importants défis matériels et financiers, particulièrement pour aider les enfants issus de familles vulnérables et atteints de cancer. C'est pour combler ces défis que l'association a choisi de lancer cette vaste campagne de solidarité.
Dans la province du Maniema, une délégation de la Mutuelle de Santé des enseignants séjourne à Kindu, chef-lieu de la province. C'est pour procéder à l'installation effective de cette structure au Maniema. Cette nouvelle suscite de l'espoir étant donné que désormais les enseignants et leurs dépendants vont bénéficier de soins sur base de retenue qui sont effectués sur leur salaire. On écoute le ministre provincial de l'Éducation, Miramaru Ngoseni, exprime sa satisfaction au micro de Florence Kizalonga.
Je viens de recevoir l'équipe de la MSP venue de Kinshasa. C'est une mutuelle, c'est une organisation qui existe déjà dans plusieurs provinces du pays. Et aujourd'hui, nous avons la chance, nous avons la grâce de la recevoir aujourd'hui pour son installation effective dans notre province du Maniema. C'est que nous jetons des bouquins de fleurs à l'équipe elle-même, surtout à l'autorité provinciale. Pourquoi pas alors nous remercions directement au chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue à prendre et à considérer ou à mettre, à placer notre sous-secteur de l'éducation à la première position. Nous l'accueillons parce que ça va donner maintenant le sens à l'existence des retenues de ces 5 000, 1 000 francs, 2 000 francs des enseignants, longtemps criés et pleurés que non, pourquoi nous continuons à contribuer, mais nous ne voyons pas l'importance de cette mutuelle. Aujourd'hui, c'est une chose faite. Donc, c'est la mutuelle de santé des enseignants du Maniema qui sera installée de demain après-demain.
Actualité internationale.
Au Gabon, la suspension par les autorités des réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre passe mal. La mesure est jugée répressive par l'opposition. Pour l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billé, cette décision n'a pas sa raison d'être parce qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises et PME ne vivent que des réseaux sociaux. C'est vraiment un outil de travail. NetBlocks, un observateur de la connectivité, a confirmé hier des restrictions touchant plusieurs plateformes en ligne au Gabon, selon africanews.fr. Notez que la haute autorité de la communication avance comme motif que les plateformes numériques et les réseaux sociaux sont abusivement utilisés par certains activistes pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'institutions, des citoyens gabonais, de personnalités publiques en violation des lois en vigueur au Gabon.
L'invité.
18 février 2026, 20 ans depuis la mise en application de la Constitution de la République démocratique du Congo, adoptée par référendum et promulguée sous le régime de Joseph Kabila, ancien président de la République. Des intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont évalué la mise en application de cette Constitution 20 ans après. On les écoute au micro de Guimaté.
Taylor Lubanga, vous êtes professeur et député national, vous êtes également chargé des missions du chef de l'État et également cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Quelle évaluation vous faites de la mise en application de la constitution de la RDC 20 ans après sa promulgation?
En effet, il est erré de noter que la constitution de la RDC, qui est passée par voie référendaire du 18 et 19 décembre 2005, était une réponse à un problème. Le problème de légitimation du pouvoir qui a entraîné des sous-questions de cohésion nationale, mais également de mise à répétition au niveau de la souveraineté du pays. Là, je vois les pays voisins. Et donc, il faut considérer que ce contexte a totalement réussi avec la Constitution qui a été une réponse et qui continue à l'être, tout au moins, dans certaines ou dans ses principales articulations. Mais l'on peut se demander utilement si la lecture objective de son application 20 ans après n'appelle-t-elle pas certaines adaptations. Autrement dit, est-ce que cette constitution qui n'est pas une Bible répond-elle à toutes les questions de gouvernance moderne et donc de développement et du statut de ce que vaut la RDC au niveau de la région?
Et s'il faut répondre à cette question, qu'est-ce que vous diriez?
C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, il est nécessaire de regarder la réalité en face et de nous dire que c'est la vérité. Le temps a permis de réaliser les limites des cohérences constitutionnelles et légitime une révision de certaines dispositions capable de nous aider à évoluer. Je prends un petit exemple. Le scrutin d'un président de la République. Comment voulez-vous qu'un chef d'État soit élu par 25% des Congolais et dirige 100% des Congolais? Parce que le vote à un seul tour ne permet pas une forte adhésion des électeurs et des légitimations du pouvoir.
Clément Mouza, vous êtes avocat, vous êtes secrétaire national chargé de l'état des droits et justice du parti politique SID, parti membre de l'opposition et parti de la coalition Lamouka. Et vous également, comment vous évaluez la mise en application de la constitution de 2006, 20 ans après?
C'est un document que je considère comme sacré qui a permis à notre pays d'avoir une certaine stabilité. Mais je pense que maintenant là, 20 ans après, parler notamment de la révision de la Constitution, par moment, j'ai dit que ce n'est pas aimer ce pays. Lorsque cette Constitution dit, à son article 219, qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, la loi fondamentale, la Constitution est claire sur ces points précis. Peut-être que les gens, et surtout ceux qui ont la passerelle du pouvoir, par rapport à certains appétits du pouvoir, pensent qu'il y a des choses qui peuvent être survolées. Non, nous sommes dans un état de guerre. Et l'état de guerre, en droit, est défini de plusieurs manières. Et l'état de guerre peut exister même à l'absence d'une déclaration de guerre.
Paul Gaspard Ngonankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Comment vous évaluez aussi la mise en application de la Constitution de la RDC 20 ans après sa promulgation?
Il y a deux manières de faire le bilan d'un texte juridique d'une Constitution. La première manière, c'est de faire ce bilan au regard des critères de son efficacité ou aussi de son efficience. C'est-à-dire, on regarde les objectifs qui lui ont été affixés, et on évalue si ces objectifs ont été atteints ou pas. Alors, je n'aime pas trop faire ce genre d'exercice parce que il aboutit souvent à l'impasse, parce qu'au final, il y aura toujours quelqu'un qui verra le verre à moitié vide et un autre qui verra le verre à moitié plein. Et donc, de ce point de vue-là, c'est tout difficile d'avoir un consensus. Il y a aussi parfois des causes qui sont liées au texte lui-même. Mais beaucoup de causes sont liées aussi à l'homme congolais. Le texte peut être beau, mais s'il est appliqué par des personnes incompétentes ou de mauvaise foi, ben, il sera toujours critiqué.
Vous pouvez suivre l'intégralité du dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Fin de ce journal préparé par Lievin Winga, mise en onde par Alain Groy. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée en compagnie de Radio Okapi. Toute l'équipe de Radio Okapi est là d'ailleurs pour cela.